OK, on commence. Donc, on était encore dans Hébreux au chapitre. Là, on va commencer le chapitre 9. On va finir. Il nous reste quelques versets dans le chapitre 8 avec une nouvelle alliance. Ce qu'on avait vu la semaine passée, c'est que l'ancienne alliance n'avait pas atteint le but de l'ancienne alliance, c'était vraiment de montrer la faillite de l'homme pour ensuite, et Dieu savait qu'il allait donner la nouvelle alliance, puis la nouvelle alliance, c'était vraiment celle qui allait fonctionner dans l'ancienne alliance, mais les conditions étaient laissées à l'homme, puis l'homme ne peut pas remplir les conditions. Mais dans la nouvelle alliance maintenant, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui garde les conditions pour la bénédiction. C'est pour ça que là, maintenant, ça fonctionne. Mais l'ancienne alliance était pour nous amener à la nouvelle alliance. Puis c'est dans le sujet de l'Épître aux Hébreux, hein, c'était toujours de leur montrer qu'il fallait qu'ils laissent les choses qui étaient des ombres et images pour venir dans la réalité, laisser ce qui était terrestre pour maintenant être dans ce qui est céleste. Puis il aurait dû comprendre dans l'Ancien Testament que c'était pas la perfection, parce que la perfection est seulement dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Fait qu'avant d'aller plus loin, on va lire à partir du verset 11 de chapitre 8, et dire ici au verset 11, « Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités. » Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte, un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie intérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposés, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent et signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ils étaient, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qu'il n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Seigneur, vous bénir la lecture de sa parole, on va demander son aide. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore ce soir de nous rassembler. Merci pour tous ceux, Seigneur, qui se rassemblent autour de ta parole. On s'attend à toi, Seigneur, on te demande ta bénédiction, on te demande de nous aider afin qu'on puisse la comprendre et la mettre en pratique, Seigneur, puis aussi se réjouir en espérance à cause des grandes choses que tu as faites pour nous, Seigneur. On te rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, dans le fond, on avait parlé un peu du fait que personne n'enseignera plus son concitoyen, c'est-à-dire, comme on avait dit, c'est pas que il n'y a plus d'enseignants pour enseigner la parole de Dieu, mais c'est du fait que la réalité de connaître le Seigneur, mais on le connaît par le Saint-Esprit. Du moment où on a mis notre confiance dans le Seigneur Jésus pour le salut de notre âme, le Saint-Esprit est venu. C'est le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit qu'on est des enfants de Dieu. Donc, on sait qu'on est né de nouveau, qu'on est passé de la mort à la vie à cause de l'Esprit qui nous rend témoignage. Puis, tout d'un coup, c'est que la parole de Dieu s'ouvre à nous, puis on peut la comprendre maintenant. Puis, c'est ça qu'il veut dire aussi. C'est certain que comme dans l'Ancienne Alliance, bien, il y avait un intermédiaire entre Dieu, puis il fallait qu'il vienne à cet intermédiaire, c'est lui qui consultait Dieu pour eux. Mais maintenant, la relation est directe avec Dieu parce que notre souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus, qui est Dieu lui-même. Donc, on vient à lui, puis il n'y a plus d'intermédiaire. On entre en contact. Il n'y a personne, il n'y a pas besoin d'un intermédiaire humain qui viennent nous représenter. Puis c'est ça qu'on voit dans la religion. Encore, il y a des prêtres ou des sacrificateurs, puis les gens encore dans la religion passent à travers cet intermédiaire-là pour se rendre à Dieu. Quand on pense à la confession auriculaire, par exemple, il fallait confesser nos péchés à un homme. Mais maintenant, nous, on n'a plus besoin de cet intermédiaire-là. On entre directement dans la présence de Dieu. On va le voir aussi dans cette nouvelle alliance-là. La voie du lieu très saint, la présence même de Dieu nous est ouverte, chacun de nous individuellement. On peut entrer puis communier avec Dieu, on peut confesser nos péchés, on peut l'adorer, on peut faire toutes ces choses-là sans un intermédiaire humain. Parce que le Seigneur Jésus, c'est lui qui est notre intermédiaire. Une des grandes bénédictions de la nouvelle alliance, c'est que, comme au verset 12, il dit, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, c'est une grande bénédiction de cette nouvelle alliance-là, c'est que maintenant, la question de notre péché est réglée éternellement. Dans l'ancienne alliance, c'était une fois par an, il fallait qu'il revienne, puis qu'il fasse encore le sacrifice et qu'il aille apporter le sang dans le lieu très saint pour couvrir les péchés pour un an. Et à chaque année, on devait répéter. Mais maintenant, c'est terminé. On n'a plus. C'est pour ça que dans bien des endroits, on nous parle d'un autel. Hein, dans la religion catholique, il y avait un autel. Mais puis, des fois, on dit ça, des gens qui disent on fait un appel à l'autel, ou en anglais, ils disent un altar call. Mais dans l'Église, aujourd'hui, il n'y a pas d'autel. Parce que le sacrifice a été, on fait plus des sacrifices enlever les péchés. Le sacrifice a été accompli une fois pour toutes. Les sacrifices qu'on offre maintenant, ben, c'est le fruit des lèvres qui confesse son nom, puis les actions de grâce. Mais le sacrifice pour le péché, c'est une chose réglée éternellement. Ça, c'est une des grandes bénédictions qu'on trouve dans cette nouvelle alliance maintenant. Dans le verset 13, il dit, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Quand on parle de nouvelle puis l'ancienne, ça veut dire que la nouvelle remplace l'ancienne. Puis c'est ça qui était le sujet du livre aux Hébreux, c'était pour les exhorter à laisser ce qui était derrière pour aller dans cette nouvelle alliance-là. Il dit au verset 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Spécialement, on sait que quand l'Épître aux Hébreux a été écrite, mais juste quelques années après, le sanctuaire terrestre, ce qui était en image du céleste, le temple avec tous les sacrifices, bien, ça a cessé parce que le temple a été détruit et les sacrificateurs, il n'y a pas eu de sacrifice dans le temple terrestre depuis ce temps-là. Donc, c'était pour prendre fin. C'était aussi un avertissement à ces Hébreux-là que maintenant, il allait plus aller à Jérusalem, mais il fallait qu'ils transitionnent vers cette nouvelle alliance-là qui était de beaucoup meilleure. L'autre était ancienne, maintenant celle-là était nouvelle et elle était tellement supérieure. Une meilleure alliance que le Seigneur leur offrait ici. Dans chapitre 9, maintenant, quand on arrive au chapitre 9, les versets 1 à 22, ce qu'il va nous rappeler maintenant, il va nous rappeler le sanctuaire terrestre. Puis quand il nous rappelle le sanctuaire terrestre, c'est pour nous faire la comparaison avec le sanctuaire céleste ou ce qui était la réalité. Donc, il va nous faire des comparaisons entre l'ancien et le nouveau, et entre ce qui était terrestre et ce qui est céleste. C'était pour démontrer des différences, mais aussi il y a des similarités, mais il y a des différences qui sont importantes. C'est pour ça qu'il va nous faire cette description-là. Dans les versets 1 à 5, il va nous faire la description du sanctuaire terrestre. Dans les versets 6 à 10, il va nous parler des ordonnances. Dans le verset 9, les versets 11 à 14, il va nous parler des similarités et des contrastes de la nouvelle alliance et le sanctuaire céleste. Puis dans les versets 15 à 22, il va nous donner les ordonnances dans la réalité du céleste. Donc c'est ça qu'il fait ici pour nous. Quand on parle d'ordonnances, les ordonnances, là, ce sont des règlements ou des instructions ou le comment fonctionner. Les ordonnances, c'est ce qui était ordonné, comment on devait fonctionner. Paul en parle quand il parle dans 1 Corinthiens 11, il parle des ordonnances qui avaient, c'est des choses qui étaient une description ou une explication du comment fonctionner. C'est ce qu'il y avait dans l'ancienne alliance, il y avait bien les ordonnances pour savoir comment on devait fonctionner. C'était très important de fonctionner de la façon que le Seigneur voulait. Donc, les instructions ou le comment fonctionner. Le sanctuaire, bien, ce sont les objets, les ustensiles pour le culte. Il y avait un endroit, puis il y avait des ustensiles, il y avait toutes sortes d'objets qui étaient liés au culte ou qu'on avait besoin pour rendre le culte à Dieu. Donc, dans les images ou les titres, les similarités avec et les différences sont importantes. Les choses qui sont similaires et les choses qui sont différentes sont importantes pour qu'on comprenne vraiment. C'est un peu comme quand on parle il faut distinguer les choses dans le culte rendu au Seigneur. C'est comme on parle de la table du Seigneur puis le repas du Seigneur. Ça, c'est deux choses différentes. Ça se ressemble parce que la table du Seigneur, comme Paul parle dans 1 Corinthiens 10, ça, c'est quand on s'approche du Seigneur, on vient communier avec le Seigneur. Ça, c'est chacun de nous autres, individuellement, on a accès, quand on est sauvé, on a accès à la table du Seigneur. Comme dans le temple ou dans le tabernacle, il y avait une table avec les pains de proposition. C'est là qu'on venait communier avec Dieu. Ça représentait la communion avec Dieu. Mais nous, maintenant, on peut le faire n'importe où on est. Individuellement, à chaque jour, on doit se nourrir à la table du Seigneur. Mais le repas du Seigneur, lui, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, comme le Seigneur nous l'a instruit dans lui-même où il fut livré. Il nous a instruit, il a donné ses instructions, comment se souvenir de lui. Puis, c'est une représentation, en fait, de la table du Seigneur. Mais La table du Seigneur, c'est là où tous les croyants ont part à cette table-là quand ils marchent dans la lumière, puis que le sang de Christ les purifie de tout péché. Mais le repas du Seigneur, ben, c'est une expression ensemble de se souvenir du Seigneur. C'est ça. Fait que maintenant, c'est ça, le sanctuaire était nécessaire pour l'ancienne alliance, comme maintenant. C'est ça que du fait qu'ils n'ont plus le sanctuaire, ils n'ont jamais été capables de faire des sacrifices. Les Juifs, depuis que le sanctuaire terrestre a été détruit en l'an 70, eh bien, les sacrifices ont cessé parce qu'ils n'ont plus le sanctuaire. N'ayant plus le sanctuaire, ils ne peuvent plus. Puis c'est ça qu'ils veulent maintenant. Un jour, ils veulent reconstruire ce sanctuaire-là pour recommencer à offrir des sacrifices. C'est évident que depuis 70, ils n'ont plus offert de sacrifices. Quand les Hébreux ou les Juifs se réunissent dans les synagogues, ben, ils font plus de sacrifices parce qu'ils n'ont plus le temple, ils n'ont plus le sanctuaire, ils n'ont plus les ustensiles non plus pour faire. Donc, les sacrifices ont cessé et ils veulent éventuellement, ils vont reconstruire puis ils vont recommencer à faire des sacrifices. Mais c'est pour ça. Mais comme dans le sanctuaire terrestre était nécessaire pour le culte, eh bien, les sacrifices, eh bien, le sanctuaire céleste aussi est nécessaire. Mais on a accès dans le sanctuaire céleste maintenant. Personne ne peut détruire ce sanctuaire-là. Il est dans le ciel. Puis, il est dans la présence de Dieu. Puis, il n'y a personne qui peut détruire ce sanctuaire-là. Mais il est nécessaire pour la nouvelle alliance. Il y a quelqu'un qui me disait à un moment donné, il disait, ah, Dieu n'a pas besoin du sang. En parlant, quand on parle du sang du Seigneur Jésus-Christ, le sang, dans la Bible, dans le chapitre 9, ici, il dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Puis quelqu'un me disait ça, le Dieu n'avait pas besoin du sang. C'est un peu comme si c'est pas grave, c'était juste pour nous autres le sang, mais c'est pas juste pour nous autres. Dieu a besoin du sang. Et c'était important parce qu'il revenait dans le verset 12, il dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, donc c'est le lieu très saint céleste. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, c'est important qu'il y ait le sang qui soit appliqué pour le pardon de nos péchés, mais ce n'était pas le sang des boucs ou des vaches ou des taureaux, c'était vraiment le sang du Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice parfait, qui a été appliqué pour nous dans le sanctuaire céleste, une fois pour toutes. Puis la question de notre péché a été réglée à cause du sang qui a été présenté pour nous par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on voit que la première alliance, au verset 1, avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Donc, le sanctuaire, c'était la scène sur laquelle se déroulaient les ordonnances de l'alliance. Donc, les instructions étaient pour savoir comment fonctionner dans le sanctuaire terrestre. De la même façon, dans le sanctuaire céleste, bien, il y a une façon de fonctionner aussi. Donc, c'était pour l'instruction. Maintenant, il va comparer pour faire sortir les similarités et les différences. Voyez-vous, dans le verset 2, il dit, en effet, un tabernacle fut construit. Ça, c'est celui que Moïse avait fait construire en image de celui qu'il avait vu sur la montagne, le vrai. Et il dit, en effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Quand on regarde le sanctuaire ou le tabernacle, ensuite de ça, le temple, ben, quand on entrait par le premier voile, ben, c'était pas tout le monde qui pouvait entrer là, c'était les sacrificateurs qui pouvaient entrer. Tous les sacrificateurs pouvaient entrer dans cette partie-là du tabernacle ou du temple. Ils entraient, et quand ils entraient, qu'est-ce qu'ils voyaient là? Ben, du côté gauche, il y avait le chandelier d'or. Et dans le côté droit, il y avait la table avec les pains de proposition. Il y avait 12 pains, deux piles de 6 qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Donc, c'était toujours représentatif, ces choses-là. Mais en avant, ben, il y avait l'autel d'airain. L'autel d'or, c'est-à-dire pour le parfum, on va le voir ici, il présente dans le lieu très saint. On va voir pourquoi. Mais quand on entrait cette partie-là du tabernacle, Mais toutes les choses là-dedans représentaient les gloires du Seigneur Jésus. Parce qu'il y avait des chérubins, il y avait des artistement tissés, travaillés. Tout était en or. Puis ça représentait les gloires. Mais c'est certain que dans le tabernacle, il n'y avait pas de fenêtre. Ce n'était pas une lumière de l'extérieur qui venait éclairer. C'était vraiment le chandelier d'or qui éclairait. Si le chandelier n'éclairait pas, on ne voyait rien. C'était noir. Mais avec le chandelier, on pouvait voir les gloires. C'était glorieux dans le temple. Puis, ou dans le tabernacle ou dans le temple, c'était vraiment glorieux. Pourquoi? Parce que ça représentait la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Puis, moi, je crois que le chandelier d'or, ça représente le Saint-Esprit. Je sais qu'il y en a des fois qui disent, ben, le Seigneur Jésus a dit, je suis la lumière du monde. C'est vrai. Mais le chandelier d'or, il n'était pas en bois d'acacia recouvert d'or, mais il était entièrement d'or battu. Le Saint-Esprit n'est pas devenu un homme, mais il est venu habiter avec nous. Pourquoi? Pour nous faire connaître les gloires du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on peut connaître de Christ doit nous être révélé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, comme le Seigneur a dit, le Seigneur Jésus a dit, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Puis dans Jean 16, 14, il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc le chandelier était là pour éclairer, pour faire connaître les gloires, comme le Saint-Esprit maintenant, son ministère, c'est de nous révéler les gloires du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est important, c'est un ministère très important. Puis sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit nous le révèle dans sa parole. C'est le ministère maintenant du Saint-Esprit. Donc, quand on entre dans ce sanctuaire-là, le Saint-Esprit nous éclaire, nous fait connaître et nous pointe vers le Seigneur Jésus. Quand on voit du côté droit, il y avait la table avec les pains de proposition. Ça représente la communion ici. Puis, c'est ça. C'est des choses qui sont vraies maintenant dans notre marche chrétienne, dans notre culte qu'on rend à Dieu, là. On a le Saint-Esprit qui nous enseigne, puis on a aussi la communion. Puis on sait que le péché brise la communion. On peut pas, la relation qu'on a maintenant avec le Seigneur Jésus est indissoluble à cause du fait qu'elle dépend du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Mais la communion, elle, est fragile. La relation est solide, donc elle ne peut pas changer, mais la communion est fragile. Dans 1 Jean 1, on voit qu'on doit marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Puis quand on marche dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, mais le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Puis le sang de Jésus, c'est ça, il y a un effet continu de constamment nous purifier pour nous garder en communion. C'est ce que ça représentait ici, les pains de proposition, c'est qu'on venait manger. Le Seigneur Jésus nous a dit qu'il est le pain. Il dit, vos pères n'ont pas mangé le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le pain. Quand il parle du pain qui descend du ciel, c'est le Seigneur Jésus qui donne sa chair, qui a donné sa chair pour nous. Puis on le représente dans le repas du Seigneur quand on communie au pain qui nous représente le corps du Seigneur Jésus-Christ, puis aussi le vin qui nous représente son sang qui a été versé pour nous. Le Seigneur a dit, prenez puis buvez-en tous, prenez puis mangez-en tous. Il nous donne, il nous offre comme les sacrificateurs quand ils entraient dans le sanctuaire terrestre, mais ils voyaient là la provision de Dieu pour communier avec les autres. Mais on sait qu'il y avait toutes les directives, les ablutions, c'est-à-dire les lavages, la sanctification qu'ils devaient pratiquer pour pouvoir communier avec Dieu. Puis c'est la même chose pour nous autres aussi maintenant. On doit constamment être sanctifié, lavé. Quand on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Puis son sang continue de nous purifier pour qu'on puisse rester en communion avec lui. Sans ça, ça serait impossible. Si le Seigneur n'avait pas pourvu à cela pour nous laver constamment par le sang de Christ, eh bien, on n'aurait pas ce privilège-là. Nous, on entre, là, on va voir ça. On n'entre pas dans un sanctuaire terrestre, on entre dans le sanctuaire céleste. Et par une route nouvelle vivante, comme on voit On pense même, ça c'est le premier, avant, derrière le premier voile. Mais nous, on entre juste qu'il n'y a plus de séparation dans le temple. On est directement dans la présence de Dieu. Le voile représentait, comme le voile entre le lieu saint et le lieu très saint, représentait comment c'était solennel. On n'entrait pas n'importe comment au-delà de ce voile-là, parce que c'était la présence de Dieu, la sainteté de Dieu. C'est des leçons pour nous aujourd'hui. Vous savez, des fois, dans les églises, il y a pas de révérence. Puis ça, c'est le Seigneur est le même. Puis si le Seigneur, quand le Seigneur Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, ben, quand on reconnaît sa présence parmi nous, ben, il y a de la révérence devant le Seigneur Jésus. Puis c'est important qu'on puisse démontrer par notre façon d'agir, on démontre la présence du Seigneur. Puis ça devient évident pour les gens, ben, s'il y a des visiteurs qui viennent, quand ils voient la façon qu'on se comporte dans la présence de Dieu, avec toute la révérence, ben, ça leur montre comment c'est important la gloire de Dieu. Puis, dans cette partie du tabernacle, les sacrificateurs pouvaient entrer en toute l'année. Ils pouvaient rentrer dans cette partie-là du sanctuaire terrestre, au-delà du premier voile. Mais ils ne pouvaient pas entrer dans le. Là, maintenant, on arrive dans la deuxième partie, qui est le second voile. On va au verset 3, il dit, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Ça représentait là, vraiment la présence même de Dieu. Dans le verset 6, on voit comme dans la première partie, les sacrificateurs pouvaient entrer en tout temps. Il dit, or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Donc, il avait l'accès. C'est pas tout le peuple, mais il rentrait comme représentant du peuple, puis il pouvait rentrer en tout temps dans cette partie-là du tabernacle. Mais maintenant, vient le second voile. Puis, ces voiles-là, c'était une séparation. Il y avait une séparation. C'est pour ça qu'on parlait de l'alliance. Cette alliance-là n'était pas comme la nouvelle. Maintenant, il n'y a plus de séparation. Mais dans ce temps-là, parce que ce n'était pas la réalité, parce que ce n'était pas la nouvelle alliance, il y avait la séparation qui était constamment souvenir, qui ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu à cause de leur péché. Mais dans le second voile, les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer. C'était seulement le souverain sacrificateur selon la classe de son service, puis pas n'importe quand. Il n'entrait pas n'importe quand dans le lieu très saint. C'était une fois par année. Puis c'était parce que c'était la présence même de Dieu ici qui était. Ils entraient dans la présence même de Dieu. Donc, mais nous maintenant, dans le nouvel sanctuaire, on entre dans la présence de Dieu en tout temps. Voyez-vous au verset 11. Il nous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des bienvenus. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Fait que lui, il est entré comme souverain sacrificateur, mais il nous fait entrer aussi. Lui, il est maintenant la route nouvelle et vivante. Dans le verset 24, il dit que Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Puis il nous a donné un accès maintenant. On peut aller constamment. C'est quelque chose. Si on se met dans la pensée des Hébreux, là, de leur dire, nous autres, qu'on entre n'importe quand dans la présence de Dieu, là, ben. Ils seraient terrifiés de ça. Ils auraient peur de rentrer dans la présence de Dieu. Mais nous, à cause de l'efficacité du sacrifice, à cause de cette nouvelle alliance-là qui nous a ouvert, le voile du temple a été déchiré du haut jusqu'en bas. C'est Dieu lui-même qui a déchiré ce voile-là. On nous dit que les Hébreux, ils l'ont recousu. Mais Dieu l'avait déchiré pour nous montrer que maintenant, à travers la chair du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est rentré dans ce sanctuaire-là céleste pour nous. Il nous a ouvert l'accès et maintenant on a accès dans cette partie-là dans le lieu très saint, mais pas sur la terre, mais dans le ciel. C'est sûr que si le tabernacle ou le temple était encore là, puis qu'on irait se présenter pour entrer dans le lieu très saint, mais non, ça marche. On ne nous laisserait jamais entrer dans le lieu très saint. Mais maintenant, dans le céleste, personne ne peut nous arrêter. Le Seigneur Jésus nous a ouvert l'accès. Au verset 4, il dit, renfermant l'ensemble, là il dit, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir pour d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Donc c'est ça qu'il y avait là, l'autel d'or. Comme j'ai dit tantôt, l'autel d'or était devant le voile. Avant d'entrer dans le voile, quand on entrait dans le lieu saint, à gauche, à droite, c'est-à-dire il y avait la table des pains de proposition, à gauche, il y avait le chandelier d'or, mais directement en face, il y avait un autel d'or. Et cet autel d'or, c'était différent de l'autel des holocaustes, l'autel d'airain qui était avant d'entrer dans le lieu saint. Et c'est là que les sacrifices, les holocaustes étaient offerts pour apporter le sang dans le lieu saint et pour purifier les choses. Mais là, ici, il nous dit que l'encensoir d'or puis était pour les parfums. Mais quand on parle de l'encensoir, c'était lui, il devait entrer au-delà du voile. Parce qu'on prenait des charbons sur l'autel d'or, on les mettait dans l'encensoir, puis on mettait le parfum odoriférant dans l'encensoir, puis avec ça, on entrait dans le souverain sacrificateur, entrait pour présenter le parfum qui représentait l'odeur de Christ. Fait que quand le souverain sacrificateur, avant d'entrer, il amenait cette odeur-là qui représentait l'odeur de Christ, parce que c'était vraiment lui qui donnait accès dans le lieu très saint. Puis il déposait le parfum sur des charbons pris sur l'autel. Puis il l'apportait dans le lieu très saint. C'est pour ça qu'il nous dit ici que l'encensoir d'or était dans le lieu très saint, parce qu'il était apporté là par le souverain sacrificateur pour pouvoir qu'il puisse entrer. C'est ça, il y a certaines traductions qui disent que c'était un brasier, ou c'est dans ça qu'on mettait. On le voit un peu dans l'Église catholique, quand il y avait un encensoir, on mettait du parfum là-dedans, puis là, après ça, parce qu'il fonctionne un peu comme dans l'ancienne alliance, l'Église catholique, ils n'ont pas entré dans la nouvelle alliance. Ils font encore les sacrifices, ils répètent constamment le sacrifice pour enlever les péchés à toutes les fois qu'ils font la messe. C'est pour ça qu'ils ont un autel, puis ils ont cet encensoir-là pour mettre le parfum, puis le faire brûler, puis le répandre dans le lieu où ils font leur culte. Mais c'est... Dans Lévitique 16, au verset 12-13, il dit « il », en parlant d'Aaron, d'Aaron et ses fils, il dit « il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de deux poignées de parfum odoriférant en poudre, il portera ces choses au-delà du voile, et il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire. » Le propitiatoire était dans le lieu très saint, et qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Donc c'est important, quand il offrait ce parfum-là, c'est pas afin de ne pas mourir, parce que c'était l'odeur de Christ qui allait. L'odeur de Christ, l'homme parfait qui donnait au sacrificateur, le souverain sacrificateur, c'est lui qui donnait l'accès dans le lieu très saint. C'est pour ça qu'il devait faire ça pour rentrer. On parle de Zacharie, que c'était selon le tour de sa classe, c'est là qu'il devait aller offrir le parfum. C'est de ça qu'il nous parle quand il a été averti qu'il aurait un fils qui s'appellerait Jean, qui serait Jean le Baptiste. Donc c'était ça qui c'était en fonction du souverain sacrificateur qui venait offrir dans le lieu très saint ce parfum-là qui était l'odeur de Christ. Mais aussi, l'arche de l'Alliance qui était là, elle représente le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle était faite de bois d'acacia recouverte d'or, donc son humanité et sa divinité. Comme il nous est dit dans 1 Timothée 2,15, or, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, l'arche, il nous parle ici de l'arche de l'Alliance. Donc, en rapport avec l'alliance. Il y avait l'âge de l'alliance en rapport avec l'ancienne alliance où l'homme pécheur pouvait, avec le sang d'une victime, pouvait venir faire l'aspersion cette fois sur le couvercle de l'arche. Puis ça représentait vraiment l'endroit où Dieu se rencontrait avec un homme pécheur sur la base d'un sacrifice. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, c'était un endroit où l'homme pouvait maintenant rencontrer le Dieu très saint, trois fois saint, mais puis c'est là que ça prenait aussi le sang. Donc, l'alliance était vraiment en figure, était basée sur le Seigneur Jésus-Christ. C'était l'odeur de Christ, le parfum représentait l'odeur de Christ. Puis, le sang était appliqué sur l'arche de l'alliance qui représente aussi le Seigneur Jésus. Donc, c'est là qu'on se rencontre avec Dieu. C'est là qu'on se rencontre entre le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. C'est là que nous, on se rencontre, pas dans un sanctuaire terrestre, mais dans le sanctuaire céleste. On se rencontre avec Dieu ici. Dans l'arche de l'alliance, ben, il y avait la manne. La manne, c'est la nourriture. C'est Christ qui est le pain. Toutes ces choses-là représentent le Seigneur Jésus. La nourriture, c'est Christ, le pain qui est descendu du ciel. Dans Jean 8, ils ont parlé du pain qui était descendu du ciel. Ils parlaient de la manne. Puis aussi, la manne était on voit que la manne était dans un pot, dans l'arche de l'Alliance. Jean 8, 31, 33, il disait au Seigneur Jésus, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Voyez-vous, c'est ce qui était figure et ombre, image et ombre. Puis là, il dit, Moïse, il ne vous a pas donné le vrai pain du ciel. Oui, il leur a donné un type, il leur a donné une image du pain qui descendrait du ciel pour les nourrir. Mais eux, ils s'arrêtaient à manger et à penser à cette manne-là qui était dans l'arche de l'Alliance que Dieu leur avait donné à manger. Mais le Seigneur Jésus, maintenant, les transportait dans la réalité. Puis il dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Puis le Seigneur leur a dit, vos pères, ils ont mangé la manne puis ils sont morts. Mais le vrai pain du ciel, celui qui mange de ce pain, vivra éternellement. Puis c'est le Seigneur Jésus qui a donné sa chair pour nos péchés. Puis c'est ça, c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Aussi, dans l'arche de l'Alliance, il y avait la verge d'Aaron. La verge d'Aaron, ça démontrait l'autorité. La verge d'Aaron démontrait l'autorité, mais c'était une autorité déléguée. C'est le Seigneur qui avait donné l'autorité à Aaron et à ses fils d'officier dans le sanctuaire terrestre. Puis personne d'autre pouvait officier, personne pouvait d'autre que des fils d'Aaron ne pouvait entrer dans le lieu très saint une fois par année. C'était important. Puis on voit la verge d'Aaron, ça nous ramène à l'histoire des fils de Coré qui se sont révoltés puis qui ont dit c'est pas juste par vous autres, en parlant de Moïse puis Aaron, que le Seigneur se révèle. Il a dit, ils usurpaient l'autorité, là. Ils voulaient entrer, ils voulaient offrir aussi. Il y avait des autels, des brasiers, puis ils voulaient offrir, mais ils se sont soumis. Mais quand ils se sont révoltés, on voit le jugement que le Seigneur leur a donné. Et Moïse avait dit, si ces hommes-là meurent comme tous les hommes meurent, là, le Seigneur n'a pas parlé. Mais si quelque chose d'inouï arrive, si la terre s'ouvre pour les engloutir vivants dans le séjour des morts, ben là, vous allez voir que c'est Dieu qui a parlé. Parce que ce n'est pas quelque chose que l'homme pouvait faire. Ça, c'est quelque chose. Mais ça démontre aussi comment c'était tellement terrible, comment c'était terrible d'usurper l'autorité que Dieu avait donnée à Aaron et à ses fils, qui représentent le Seigneur Jésus. C'est lui qui est cette autorité-là. Donc, c'était une autorité déléguée. Puis, ils ont vraiment été engloutis dans la terre. Puis, il y avait 12 verges, une pour chaque tribu, puis il y avait une pour la tribu, pour les fils d'Aaron. Mais les autres verges, ils n'ont pas fleuri. Mais la verge d'Aaron, elle a fleuri, puis elle a donné des amandes. Mais ça nous parle de quoi? C'est une verge, c'était un bâton qui était mort, qui était coupé de l'arbre, qui était pas nourri par la sève de l'arbre. Donc, mais maintenant ici, cette verge-là d'Aaron, elle a fleuri, puis elle a donné des amandes. La vie est entrée dans cette verge-là qui était morte. Puis ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la résurrection du Seigneur Jésus. Lui qui est mort pour nos péchés, mais qui est revenu à la vie, a vaincu la mort pour nous. Cette verge-là était un souvenir de l'autorité qui avait été déléguée au fils d'Aaron et eux seuls, mais aussi dans la résurrection. Le Seigneur Jésus, c'est comme ça, c'est dans la résurrection qu'il est allé offrir son sang. Il a versé son sang sur la croix et dans la résurrection, il est allé l'offrir dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste, le vrai sanctuaire qui n'était pas celui qui avait été fait en image. Donc aussi, qu'est-ce qu'il y avait dans l'Arche de l'Alliance? Ben, il y avait les tables de l'Alliance, c'est-à-dire la loi, les tables de la loi qui étaient là. Ça, c'est le standard, c'était la loi. L'Alliance était fondée sur cette loi-là, puis elle était là dans le lieu très saint, à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance. Maintenant, on arrive au propitiatoire. Verset 5, il dit: Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Quand on parle de propitiatoire, le propitiatoire, c'est vraiment, moi j'aime le représenter comme ça, c'est ce qui nous rendait Dieu propice. Non seulement Dieu était apaisé, mais maintenant il est propice. C'est ça qui était le rôle du propitiatoire. C'est là que c'était la provision pour le péché. Parce qu'eux ne pouvaient pas garder la loi. Mais quand ils mettaient le sang sur le couvercle de l'arche, qui est le propitiatoire, ben, ce sang-là était accepté, puis le souverain sacrificateur ne mourait pas, puis comme il était le représentant du peuple, ça voulait dire que le peuple maintenant était reçu dans la présence de Dieu pour une autre année. Donc, mais il y avait au-dessus de ce couvercle-là, il y avait les chérubins. Il y avait les chérubins protecteurs qui étaient à chaque bout du couvercle de l'arche du propitiatoire, puis leurs ailes touchaient ensemble et ils regardaient vers le propitiatoire. C'est pour ça que Pierre nous dit, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ça, qu'est-ce que ça représente? C'est que notre rédemption n'a pas été faite en cachette, mais en pleine lumière, en pleine vue. Et qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Donc, le Seigneur, c'est parfaitement juste. Le plan de rédemption de Dieu a vraiment accompli tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse être déclaré juste devant Dieu. Puis, il n'y a personne qui peut amener aucune accusation pour nous devant Dieu. Donc, c'est ça que ça représente ici, les chérubins qui désirent, ils voient ces choses-là. C'était quelque chose pour ces chérubins-là de voir qu'un homme pécheur était maintenant dans la présence de Dieu, puis qu'il n'était pas frappé par le jugement de Dieu à cause du sacrifice, à cause du sang qu'il avait apporté, à cause du parfum odoriférant qu'il a. Puis tout ça représente l'accès que le Seigneur Jésus nous donne. Donc, le fonctionnement dans le sanctuaire, l'entrée n'était pas libre. Voyez-vous, dans le verset 6, il dit, et 7, « En ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. » Voyez-vous, le verset 8, il dit, « Le Saint-Esprit montrait par là, à cause de ce qui se passait une fois par année seulement, puis seulement le souverain sacrificateur, puis seulement les sacrificateurs pouvaient entrer dans la première partie du tabernacle. Il dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est pour ça qu'il faut qu'ils disparaissent. Puis il fallait que les autres, vraiment, là, ils comprennent qu'il fallait qu'ils laissent ce sanctuaire-là. C'est un peu comme s'il voulait retourner à ça, puis il dit non, il faut que vous laissez ça pour maintenant profiter du nouveau. On ne peut pas ajouter, ce n'est pas d'ajouter, la relation qu'on a avec le Seigneur Jésus maintenant, ce n'est pas d'ajouter. C'est pour ça que quand on se convertit au Seigneur Jésus, ben, il faut renoncer aux œuvres mortes. Il faut, on va le voir en parlant de la vache rousse, là, mais il faut renoncer. On peut pas. Puis des fois, aujourd'hui, il y a un évangile qui est prêché que c'est comme si tu ajoutes le Seigneur Jésus à ce que tu as déjà, puis regarde, ça fait plus, donc c'est mieux. Non, le vrai évangile, il faut se repentir, il faut se détourner. Puis Paul, qui était un homme très religieux, qui avait beaucoup de choses à réclamer dans sa vie, dans ses œuvres, puis il a dit, ces choses-là qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme de la boue. Tu ne peux pas avoir ça au Christ. Puis l'évangile qui est prêché maintenant, que tu peux ajouter, tu peux avoir tes œuvres, tu peux avoir ta religion, puis tu peux avoir le Seigneur Jésus aussi. Non, tu ne peux pas, c'est impossible. Puis c'est ça que les Hébreux, il fallait qu'ils fassent, il fallait qu'ils laissent ces choses-là pour profiter de cette nouvelle alliance-là. Parce que les autres, c'était dépassé, c'était remplacé, ce qui a vieilli et prêt à disparaître. Pourquoi? Pour que maintenant, on se détourne de ces choses-là pour se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, dans le chapitre 10, au verset 19, il dit, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Pourquoi retourner là-bas? C'était juste, il n'y avait pas qu'est-ce que la nouvelle alliance leur donnait dans cette ancienne alliance-là. Donc, c'est important des autres de laisser ça. Puis, si quelqu'un veut être sauvé, faut qu'il laisse. Faut qu'il laisse ses bonnes œuvres, faut qu'il laisse sa religion, faut qu'il laisse même sa façon de penser. Parce que, vous savez, même si les gens disent, je suis pas religieux, mais tout le monde va dire, ah ben moi, je fais pas de mal à personne, puis je vais. Il faut abandonner ça, se reconnaître perdu, pécheur, banqueroute devant Dieu. Puis c'est quand on en vient là qu'on est brisé. Puis c'est pour ça que ce Seigneur a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Il faut, et c'est essentiel, la repentance est essentielle pour pouvoir saisir le salut en Jésus-Christ. Puis on le voit, des gens qui ne se sont pas repentis, ils n'ont pas été brisés. Ils n'ont pas été brisés, puis ils n'ont pas la même appréciation pour le Seigneur Jésus. C'est comme, j'en avais fait pas mal moi-même, le Seigneur Jésus en a fait. Non, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Puis, et même cette ancienne alliance-là a été faite pour démontrer la supériorité de la nouvelle. C'est dans le verset 8 à 10, voyez-vous, il dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, même cette ancienne alliance-là, là, a démontré qu'il fallait sortir pour, quand la nouvelle alliance viendrait, il fallait laisser derrière cette ancienne alliance pour pouvoir s'acquérir cette nouvelle alliance-là, avec tous les bénéfices de cette nouvelle alliance-là. C'est pour ça que il faut sortir de la religion pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Puis on voit dans Hébreux 13, on va aller dans Hébreux 13, verset 10 à 13, il dit ici, nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle. Encore là, il compare l'ancien avec le nouveau. Nous autres, c'est l'autel qu'on a, c'est une nouvelle alliance. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Ils n'ont pas le droit parce qu'il faut qu'ils soient sauvés pour avoir accès à cet autel-là. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. C'est-à-dire que si dans ce temps-là, les sacrifices, le sang qui était porté dans le lieu très saint, ben, il devait être brûlé, les sacrifices devaient être brûlés en dehors du camp. C'est-à-dire, en dehors, quand on y était dans le désert, là, le camp, il fallait qu'ils sortent du camp pour aller brûler ces animaux-là le sang avait été porté dans le lieu très saint par le souverain sacrificateur. Déjà là, ça démontrait quoi? Ça démontrait que puis Christ a souffert hors de la porte. Quand ils l'ont crucifié, ils l'ont sorti de Jérusalem, et en dehors du mur de Jérusalem. C'est là que le Seigneur Jésus a souffert. C'est toutes des images, ces choses-là. Quand nous dit quoi? Ben, nous autres aussi, il faut sortir. Si on veut avoir Christ, il est dehors. Puis on le voit même dans l'église de Laodicée, à la fin, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, il faut sortir. Ceux qui ne sortent pas ne communient pas avec le Seigneur parce qu'il n'est pas en dedans, il est dehors. Puis on faut aller à lui, sortir du système, de tout système religieux, puis même de notre façon de penser pour aller vers lui en dehors de la porte. Puis là, c'est là qu'on devient des étrangers, puis des voyageurs. On n'est pas, on ne fait pas partie. Fait que c'est ça, je vais m'arrêter là, on est déjà avancé. C'est qu'il faut sortir, puis l'évangile qui est prêché, on peut juste ajouter le Seigneur Jésus à ce qu'on a déjà, et croyez-le pas, ce n'est pas le vrai évangile, c'est un faux évangile. Le Seigneur nous demande de sortir pour aller vers lui. Donc, je vous ai donné la possibilité de reprendre votre micro. Si vous avez des questions ou vous avez des commentaires, vous pouvez le faire maintenant.
Oh, j'ai trouvé ça beau quand tu as mentionné que le souverain sacrificateur, il entrait dans le lieu très saint avec
Je pense à geler, Lévi.
des problèmes un peu avec l'Internet, hein.
Oui. Voici de l'heure.
Oui, mais simplement, je veux mentionner ce verset-là. Ça dit que pour le parfum de Christ,
Ouais.
pour ceux qui sont sauvés.
Ouais, c'est ça.
Excusez-moi, problème avec l'Internet.
L'entend pas, les vignes.
Non, Lévi, c'est ça, il y a des problèmes avec
Micro
son
est fermé,
Internet.
ouais.
Il y a des problèmes avec son Internet. C'est ça qu'on.
Mais tantôt, nous aussi, pendant que tu lisais, il y a eu un gel.
Ah oui? Puis vous ne m'entendiez pas?
Non, tout le monde était figé. Ouais.
Ah oui?
Oui.
Pendant qu'on lisait le passage?
Oui.
Au début, OK.
Au
OK.
début,
Mais le reste du temps,
justement,
vous. Pardon?
on a commencé dans le chapitre 8 et on était à 11. Une personne n'enseignera plus son concitoyen.
Ouais.
Moi, je pensais que ça s'appliquait surtout pendant les 1000 ans où le Seigneur Jésus va être présent. Parce qu'ici, il s'adresse à Israël, puis Israël sera restauré pendant les 1000 ans, puis le Seigneur Jésus va être présent.
Ouais. Mais c'est quand il dit, comme au verset 10, c'est « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Et ça concerne la nouvelle alliance. C'est-à-dire que maintenant, le Saint-Esprit est en nous. Comme le Seigneur Jésus avait dit, si quelqu'un m'aime, le Père, qui ferait lui, le Père ferait leur demeure en nous. Fait qu'on a une communion directe, sans intermédiaire avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on On ne peut pas avoir des enseignants qui vont nous enseigner la parole, mais ça veut dire que maintenant, on a une communion directe sans intermédiaire avec le Seigneur dans cette nouvelle alliance-là.
La nouvelle alliance a d'abord été faite avec le peuple d'Israël, puis nous, on a les conséquences de cette alliance-là, de cette nouvelle alliance-là.
Oui, parce que cette nouvelle
Et
alliance-là, elle nous concerne aussi, là, comme le Seigneur.
ouais, c'est ça.
Ouais.
Donc.
Donc, on est entré. Le Seigneur a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, puis eux aussi, il faut qu'il nous ait fait entrer. Quand il priait aussi, je ne te prie pas seulement pour les disciples, mais pour ceux qui croiront en mon nom. Ça, c'est la prière sacerdotale. Donc, on est dans cette nouvelle alliance-là, nous aussi, par l'Esprit qui dit Paul nous dit aussi que c'est pas écrit sur de la pierre, mais sur des cœurs de chair. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, le ministère de la mort s'était gravé sur des pierres, mais maintenant, c'est gravé sur nos cœurs. Le Seigneur nous communique directement avec nous autres, puis il nous montre, parce qu'il nous dirige, parce qu'il nous dit aussi que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. C'est vraiment dans la communion intime du Seigneur. C'est pas nécessairement les autres qui nous disent les œuvres que le Seigneur veut qu'on fasse. C'est lui qui nous le communique directement. Comme étant la tête du corps, puis nous, on est les membres. Donc, étant en communication avec la tête, le Seigneur nous dirige, puis chacun de nous autres, on n'a pas besoin de s'agencer ensemble. C'est lui qui nous agence. Puis on s'aperçoit qu'on fait l'œuvre du Seigneur ensemble.
Ce que j'ai de la misère à comprendre, Gérald, c'est que l'Église catholique romaine fonctionne encore et toujours dans l'ancienne alliance avec le sanctuaire terrestre. Pourtant, ces gens-là, ils ont accès au Nouveau Testament. Pourquoi qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui est dit dans Hébreux 10, 11, là, que tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les sacrifices, puis on dirait que c'est pas accessible cette connaissance-là pour eux.
Non. Oui, il y a un voile qui est jeté sur leur cœur. Comme les Hébreux, ils comprenaient pas, mais ils comprennent pas encore parce qu'il y a un voile qui est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, dans 2 Corinthiens 3, 4, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est là qu'on entre, là, on comprend. C'est là que l'enseignement aussi du Saint-Esprit, que Dieu il nous fait comprendre qu'on n'est plus dans son. On est dans la nouvelle alliance maintenant. Puis là, on communique aux choses présentes, aux choses qui sont en rapport avec cette nouvelle alliance-là, et non selon l'image et les ombres des choses qui étaient auparavant.
On voit Gérald aussi au verset 2 du chapitre 9 qui dit: En tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint. Et c'est très intéressant, il y a le chandelier, la table et les pains de proposition. On voit que ça a été construit par les hommes, par les ordonnances de Dieu. Et j'aime que ce soit écrit le chandelier qui est là pour nous éclairer, la table qui est là pour nous porter et le pain pour nous nourrir. On voit que c'était une belle image pour l'ancienne alliance. Il y aurait d'autres choses à dire aussi, parce qu'on voit aussi, comme tu as dit là, au verset 4, dans le lieu très saint, le saint des saints qui est là, il y a la manne qui est venue du ciel. C'est venu du ciel, tu nous représentes qui? Le Seigneur Jésus.
Le Seigneur, il utilisait ces choses-là qui étaient
Oui.
pour leur enseigner ce qui était
Oui,
la réalité.
oui.
Il
Puis la Vierge d'Aaron, qui était un corps mort, une branche morte, elle a fleuri, comme le Seigneur Jésus qui pensait qu'il était mort, qui voulait l'éliminer. Il a porté du fruit, il a donné 12 fruits selon les 12 tribus. C'est les 12 apôtres, l'image des 12 apôtres. Puis en plus, la nouvelle alliance était là, les tables d'alliance. C'est vraiment merveilleux ce que le Seigneur nous met dans sa parole.
Ben oui, ces choses-là, c'était pour nous faire comprendre. Puis le Seigneur nous montre la réalité, il nous fait aller au-delà de l'image. Ça fait que le temps est arrivé, c'est qu'on va terminer par un mot de prière, fait que ceux qui doivent partir puissent partir. Puis s'il y en a qui veulent jaser, on peut jaser encore après. C'est qu'on s'arrête un moment pour remercier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole. On sait, Seigneur, que comme l'écrivain de l'Épître aux Hébreux disait qu'il y avait des choses difficiles à comprendre, on te remercie, Seigneur, que tu nous fasses avancer dans la compréhension pour qu'on puisse comprendre ces choses-là. On ne veut pas, Seigneur, demeurer où on est. On veut s'avancer pour comprendre la réalité de ces choses merveilleuses, de cette nouvelle alliance. Puis en regardant en arrière à l'ancienne alliance, ça nous fait comprendre la supériorité de cette nouvelle alliance-là. Parce que tant que ça subsistait, eh bien, tant qu'on reste dans cette ancienne alliance-là, on ne peut pas goûter le bonheur, la joie de cette nouvelle alliance. On te remercie, Seigneur, pour la façon que tu as accompli ton œuvre. C'est vraiment merveilleux, Seigneur. On est épaté de toutes ces choses glorieuses qui nous parlent de toi, Seigneur. On te remercie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.